Bonjour Krishna Oulon. Aujourd'hui, nous vous recevons à l'Express pour une interview dans le cadre de cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre, les honoraires de Kailash Trilochan de 19 millions de roupies. Juste nous dire quelle est votre réaction après que vous avez entendu que Kailash Trilochan a empoché 19 millions de roupies comme honoraire pour le compte de la cité.
Bon, d'abord pour vous dire que je ne crois pas qu'on peut comme si discuter l'honoraire à Sturgeon, hein. Mais toutefois, pour moi, ce qui m'intrigue, c'est la procédure qu'on a adoptée pour pouvoir accepter le fait que il y a un avocat qui offre un service à l'État qui est encore public. Et donc, quelles sont les procédures qui ont été suivies? Est-ce qu'on a vraiment lancer l'appel d'offres comme on devait le faire. Parce que, d'après le Public Procurement Act, c'est bien prescrit que tout service dépassant le 5 millions de roupies va obligatoirement, ça, on va devoir passer par un appel d'offres public. Et d'après les renseignements que moi j'ai, ça n'a pas été fait. Et donc, de ce fait, c'est ça qui est vraiment très aberrant. Parce que, comment est-ce qu'on parle de la bonne gouvernance? Et surtout, comme un régulateur, on doit être le modèle pour l'industrie de télécommunications. Donc, comment un régulateur que lui-même, il entrave les provisions d'une loi qui est le Public Procurement Act?
Vous étiez en poste lorsque Kailash Trilochan a été nommé?
Oui, j'étais en poste, c'était, si je ne me trompe pas, c'était au mois de juin de l'année dernière. Donc, le board avait pris la décision de retenir ses services sur une base de retainer. Et donc, vu que vous savez, comme régulateur, on doit souvent prendre des décisions et en se basant sur les provisions des textes de loi. Et donc, de ce fait, toutes les décisions hein, qu'on prend à l'ICTA comme un régulateur, et c'est basé sur le principe de droit. Donc, il faut être accompagné par un juriste. Et donc, moi, je crois que c'était assez normal que le board a pris une décision qu'on va devoir avoir, on va devoir solliciter le service d'un juriste. Et donc, le board a fait le choix sur Maître Trilochon, ben, c'était OK. Et voilà. Et suite à ça, ben, ce qui s'est passé par la suite, ben, j'étais plus là-bas parce que, à partir du mois d'août, ça fait presque, enfin, ça fait un an exactement, aujourd'hui, et j'étais plus à l'État. J'étais. Enfin, on m'a interdit, d'abord, pour des raisons que, enfin, ça, on l'a vu. C'est que c'est passé, et puis bon, voilà, la loi m'a donné raison aujourd'hui.
Parce que vous dites qu'il faut revoir le board. Pourquoi selon vous?
Non, mais parce que carrément, je crois que le board a failli. Parce que, écoute, s'il y a eu, on a octroyé un contrat de service à la hauteur de 19 millions, ce que veut dire, c'est que c'est largement au-dessus, comme c'est au-dessus du montant qui est prévu par le Procurement Act. Donc, de par les provisions du Public Procurement Act, le board aurait dû, dans un premier temps, décider qu'il fallait faire un appel à candidature pour cette position, pour pouvoir déterminer qui sera le juriste qui allait représenter l'ICTA dans ce cas. Donc, ça n'a pas été fait. Et je crois que quand la facture est venue, si je comprends bien, enfin ça, je n'ai pas les informations, je crois qu'on a dû avoir l'approbation du board. Donc, pour moi, c'est que le board a failli carrément dans ce processus. Donc, il n'y a pas eu, on n'a pas, ils n'ont pas vraiment, ils n'ont pas appliqué les provisions de la loi, du Public Procurement Act. Et si je comprends bien, si une institution qui est listée dans ce acte, qui enfreint un peu ses provisions, c'est criminel en droit. Donc, on va devoir prendre les actions nécessaires contre ces personnes, ces membres du board, incluant le board secrétaire, qui, de par la loi, a l'obligation de conseiller le board sur chaque item qui est sujet à une décision. Donc, pour moi, le board et le secrétaire du board a failli dans leur tâche.
Ok. Est-ce que par le passé, est-ce que la CTI a payé ce montant à d'autres legal advisors?
Par ma connaissance, Jamais, jamais. Vous savez, parce que il y a des seuils qui étaient établis dans le board, dans le passé, quand j'étais à l'ICTA. Et il y avait des seuils qui étaient très bien définis, par le board. Et donc, nous, au niveau de management, quand on devait, comme si, retenir les services des juristes, on s'assurait à ce qu'on opère dans la limite de ces seuils qui sont définis. Et je peux vous dire que, personnellement, je n'ai jamais vu une facture à cette hauteur.
Est-ce que vous vous rappelez quel est le montant le plus élevé qu'on a payé?
Bon, pour vous dire, enfin, il y avait les seuils qui étaient définis, il y avait des fourchettes qui étaient définies par le board. Par exemple, s'il y avait un cas qui était au tribunal, par exemple, le board avait défini un seuil, un maximum de 75 000 roupies. Tout dépend de la complexité des cas. Et s'il y avait un cas qui allait partir à la Cour suprême, donc on avait un seuil de 150 000 qu'il ne fallait pas dépasser. Et puis, c'est pour des cas qui sont assez complexes, et dans laquelle cas on devait solliciter comme si retirer le service d'un senior counsel. Et dans ce cas précis, je crois le seuil que le board avait approuvé, c'était 300 000 roupies. Et donc, à ma connaissance, on n'a jamais, jamais allé au-delà de ce seuil.
Mais pourtant, selon les recherches que j'ai faites, l'avocat Sir 25 avait déjà été payé 6 millions de roupies par le passé.
Ah, non, 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 c'est ça. 6
Oui.
millions, c'était cumulatif. Pour une période, je crois, de 10 ans. Et ça inclut le retainer mensuel et plusieurs cas pour lesquels il avait représenté l'autorité. Donc, c'était le 6 millions, vous avez parfaitement raison. Le 6 millions, c'est pas un one-off fee, comme on dit. C'est comme si c'est une somme cumulative, comme si au bout de 10 ans.
Et c'est justement pour cette pour le procurement d'accord qu'on vous a poursuivi.
Exactement. On a, si je peux même dire qu'à l'époque, l'année dernière, on a essayé de conconner une histoire pour aller faire comprendre que moi, je n'avais pas suivi les provisions du Procurement Act. Or, ce qui s'était passé, précisément, et on avait fait l'achat de deux voitures. Ce n'était pas des voitures pour l'autorité, c'était des voitures pour des directeurs, parce que c'était ce qu'on appelle les Terms and Conditions of Service. Et ça, on avait eu la confirmation du bureau du PRB, le Paris Search Bureau, et pour dire que n'importe quel officier qui bénéficie d'un official car, l'officier en question peut choisir sa voiture pourvu que on dépasse pas le budget alloué pour la voiture et on dépasse pas le CC rating, ce qu'on avait fait. Or, il y a un officier de l'autorité, je ne sais pas, quand il a vu le nouveau mode qui était venu sur place, il a essayé, je ne sais pas, un peu très prétentieux, peut-être il a cru un peu dans les histoires que peut-être le mode nous a raconté, peut-être il sera promu, donc il voulait créer une histoire, c'est ce qu'il a fait. Donc, on a monté une histoire pour aller dire que, effectivement, il y avait moi et les autres officiers, tels que Procurement Officer, parce que c'est elle qui conseille au niveau des procurement, et même les bénéficiaires de ces voitures, Jérôme, lui, qui est directeur, et M. Arish Bola, qui est également directeur. Donc, on a fait comprendre que c'est nous, ces quatre personnes, on a entravé les provisions du Procurement Act. Et nous, c'est ça qu'on a donné dans notre déposition au CCID, on a fait comprendre que, voilà, nous, on a suivi strictement les provisions de la loi. Et pour ces types d'achats, on peut faire ce qu'on appelle un direct purchase. Parce que si l'officier en question a choisi telle voiture, pourvu que c'est dans les spécifications qui est prescrit, ben on n'a pas de souci. À moins si, par exemple, si bon, on parlait beaucoup des Audi qu'on avait achetés, si avec trois ou quatre concessionnaires d'Audi à Maurice, à ce moment-là, on aurait fait un appel d'offres parmi ces concessionnaires de Audi. Mais on a que comme si un unique représentant de Audi à Maurice, donc je crois que c'est un direct purchase. Donc on s'est plié carrément aux provisions du Public Procurement Act, au contraire à ce que certaines personnes ont voulu faire comprendre, malheureusement.
Donc concrètement, c'est-à-dire que les deux parallèles, d'un côté, on n'a pas passé d'appel d'offres. Et d'un autre côté, c'est le direct purchase.
Exactement, exactement. Et voilà, et le Public Procurement Act a déjà prescrit quels sont ces seuils pour lesquels on peut faire un direct purchase et quels sont les seuils pour lesquels on va devoir et faire des appels d'offres.
En voyant tout ça, vous me dites tout ce que vous me dites, on a l'impression que bon, la ICTA, il y a eu beaucoup d'affaires controversées à la ICTA, même quand vous étiez là-bas.
Bon, disons que si on parle de controverse, disons, si on parle de l'ICTA, pour moi, primo, le régulateur a des fonctions de base, la régulation. Bon, on peut y avoir, il y a eu des controverses. Bon, vous mentionnez des controverses, j'ai pas des exemples en tête là, mais pour vous dire que malgré qu'on aurait pu avoir certaines controverses, oui, mais il y avait les fonctionnalités primaires, les fonctions, on pouvait réaliser notre fonction. Au niveau de l'industrie, comme si je peux dire que l'ICTA was delivering. Oui, c'est, la perfection, ça n'existe pas. On essaye toujours d'apprendre par les erreurs qu'on a faites pour pouvoir s'améliorer.
Mais pourtant, l'ancien board qui était là, il y a eu beaucoup de controverses dans le sens qu'on voyageait beaucoup, percevait des peu d'IM.
Vous savez, enfin, pour vous dire franchement, je suis très mal placé pour faire des commentaires sur le board. Ce que je vous dis, c'est que comme professionnel dans le domaine de la régulation, je peux vous parler des régulations. Est-ce qu'on a pris des bonnes décisions par rapport aux réglementations qui ont été faites? Ça, c'est, je peux que commenter là-dessus. Mais quand il s'agit, bon, ce que le board a fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, pour vous dire franchement, ça m'est de passe.
Mais la cité n'est pas politisée ou vous pensez que c'est politisé?
Bon, si vous voulez mon opinion là-dessus, moi je crois que, enfin, ça dépend comment vous définissez politisé. Parce que chaque, comme si on appelle un statutory body, tous les corps paritatiques qui est dirigé, enfin, on a à la tête un board, vu que, bon, le board est normalement nommé par le gouvernement. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est en règle, parce que chaque gouvernement qui vient va devoir nommer des personnes en qui ils ont confiance. Et moi, je crois que c'est assez naturel. Parce que quand vous regardez même le texte de loi, de l'ICTA par exemple, bon, pour les autres, je crois que c'est la même chose, notre premier objectif, c'est d'implémenter la politique du gouvernement. Donc, pour qu'un gouvernement qui définit sa politique et qu'il a l'assurance que les politiques vont être implémentées, il doit avoir des personnes de confiance qu'ils vont mettre au niveau du board. Et c'est là que moi, je crois que la façon de faire cette nomination, c'est là qu'il y a des soucis. Et moi, je crois que peu importe quel gouvernement qui vient, il va devoir s'assurer à ce qu'il met les personnes qui sont des personnes de confiance, mais qui sont des personnes qui sont à la hauteur, tout deliver as well. Parce que sinon, franchement, ça sera malheureux pour le pays. Finalement, on va rien comme si achieve. Hein. Donc, est-ce que l'ICTA est politisé? Pour vous dire franchement, je ne veux pas vous répondre la question. Ça va dépendre de comment on veut définir politiser. Il y a ce dose de politique dedans, moi, je crois que c'est inévitable. Et on doit l'avoir, je peux vous dire, parce que n'importe quelle décision qu'on prend pour un pays, que ce soit une décision d'ordre réglementaire, il doit y avoir cet aspect politique qui influence cette décision. Donc, on parle de la politique du gouvernement, qui est, par exemple, d'améliorer les connectivités. C'est une décision politique. Donc, il faut y avoir des gens de confiance au niveau du board pour amener à bien cette stratégie gouvernementale. Mais maintenant, si ces personnes-là n'arrivent pas à être délivrées, ils commencent à faire des choses comme on voit aujourd'hui. Mais à ce moment-là, c'est vraiment le pays qui souffre.
Est-ce que après votre vous avez été blanchi par la cour, est-ce que vous allez entamer des poursuites?
Non, c'est ça, comme je vous dis, je vous avais dit un peu plus tôt. J'attends un peu les avis de mes conseillers juridiques pour décider de la voie à suivre.
Ok. Et est-ce que vous, à l'avenir, est-ce que vous allez retenir les services de Kailash Trilochan?
Moi, personnellement?
Oui.
Comme
avocat, comme conseiller?
Non, ben ça, je ne sais pas. Je ne pourrais vous dire parce que je ne suis pas l'autorité. Hein. Si vous me demandez
en tant que personne.
En tant que personne, enfin, ça va dépendre si j'aurai besoin de ce service. Hein. Ça va dépendre, parce que normalement, pour pouvoir retenir le service d'un conseiller, d'un juriste, vous devez voir un peu ses spécialités. Il faut voir un peu ce qu'on appelle son credentials. Donc, s'il le faut, un jour, je ne sais pas, on va prendre la décision.